Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons étudier, contempler, découvrir aujourd'hui l'éternité de Dieu. C'est absolument nécessaire parce qu'on dit beaucoup de bêtises sur l'éternité. Et puis nous allons découvrir que Dieu nous fait entrer dans son éternité, ça nous le savions évidemment, l'éternité des bienheureux, mais que dès ici-bas, nous pénétrons déjà cette éternité de Dieu. Nous ne sommes pas seulement en marche vers l'éternité, mais nous sommes en marche dans l'éternité de Dieu. Je commencerai par une anecdote. Monseigneur Lefebvre nous raconta une fois, justement à ce propos de l'éternité, nous donnant des conseils, nous parlant de l'éternité, nous donnant des conseils pour le catéchisme, que lorsqu'il était jeune, enfant au catéchisme, le prêtre avait expliqué que l'éternité n'avait ni commencement ni fin, Dieu était éternel, il n'avait ni commencement ni fin. Et dit-il, mes enfants, vous imaginez une grande boule d'acier, une colombe qui, du bout de son aile, effleure la boule d'acier une fois par an, une fois par siècle. Eh bien, lorsque la boule d'acier sera totalement usée, l'éternité n'aura pas encore commencé. Et Monseigneur de nous dire, ne prêchez jamais des choses pareilles, ne dites jamais cela. Comment peut-on comparer Dieu à une boule d'acier qui ne s'use pas? Alors donc, qu'est-ce que l'éternité? Elle est la possession totale, simultanée et parfaite d'une vie sans terme. Le mot important ici, c'est évidemment la vie. Mais il s'agit de la vie de Dieu. Et donc la vie de Dieu, contrairement à la nôtre, qui est un changement, enfin qui se déroule dans le changement, la vie de Dieu est une possession parfaite, simultanée et totale. Parfaite, c'est évident, Dieu est parfait. Total, parce que cette perfection est telle qu'il ne lui manque rien, il ne lui manquera jamais rien, est simultané, parce que cette perfection, Dieu en jouit, il fait plus qu'en jouir d'ailleurs, il est cette perfection, Dieu en jouit sans avoir besoin de passer d'une chose à une autre. Dieu se contemple d'un seul regard, qui est lui-même d'ailleurs. Étudier l'éternité, vous voyez, nous le faisons par les comparaisons avec le temps, avec les choses qui passent, parce que toutes les choses de Dieu, nous sommes obligés de les abstraire des choses que nous connaissons, qui sont des choses d'ici-bas créées. Et c'est cela qui est merveilleux, lorsque Dieu se révèle à nous, qu'il nous sort justement de toutes ces choses créées, un peu limitées, pour nous faire entrer dans la hauteur de sa perfection qui dépasse infiniment toutes les choses d'ici-bas. Nous avons une vie très imparfaite, très limitée, alors que celle de Dieu est sans limite, sans fin, je vous l'ai dit, sans terme. Et puis, même si elle était parfaite, nous n'aurions pas toutes les choses, et puis pas toutes à la fois. Et Dieu, petit à petit, nous fait entrer dans cette perfection qui est la sienne. Par conséquent, il faut faire bien attention à ne pas définir l'éternité comme ce qui a ni commencement ni fin. Ça, c'est légitime éventuellement, mais comme une toute première approche pour faire découvrir aux enfants du catéchisme le premier pas vers l'éternité de Dieu. Avec le gros inconvénient qu'on est encore dans la durée, on pourrait imaginer une durée qui n'a ni commencement ni fin. Prenez l'âme d'un pécheur, d'un damné par exemple. Elle a eu un commencement, mais elle n'aura pas de fin. Eh bien, il serait tout à fait faux de dire que du fait qu'elle n'a pas de fin, elle est dans une sorte d'éternité ou de demi-éternité. Saint Thomas d'Aquin enseigne expressément que le fait de n'avoir ni commencement ni fin, qui est effectivement lié à l'éternité, et qu'on ne trouve pas dans les choses du temps, toutes les choses du temps ont sous différents aspects un commencement et une fin. Mais lorsqu'on dit que Dieu est sans commencement et sans fin, il dit que c'est une conséquence. C'est une conséquence de l'éternité, ça n'est pas l'éternité. Après avoir parlé de l'éternité, il faut parler du temps. Quelle est la définition du temps? Elle est la mesure du mouvement selon l'avant et l'après. On est tout à fait à l'opposé. Le temps, c'est ce qui mesure ce qui change. Et voilà pourquoi nous avons l'impression que le temps passe vite ou au contraire qu'il passe lentement. Quand vous avez un malade sur un lit d'hôpital qui n'a rien à faire, le temps lui dure et lui est pénible parce qu'il n'y a rien dedans. Tandis que quand vous avez énormément d'activité, vous direz que le temps passe vite. Eh bien, il faut dire que le temps dépend de l'éternité, comme les choses créées dépendent de Dieu le Créateur, et comme le mouvement dépend des perfections qui sont communiquées à celui qui ne les avait pas. Rappelez-vous la première voie de l'existence de Dieu, nous avons vu que tout mouvement est l'acquisition d'une perfection, ou devrait être l'acquisition d'une perfection. Ça suppose que cette perfection préexiste, et qu'on ne peut pas remonter à l'infini, et que par conséquent, on arrive vers nécessairement sur celui qui est à la tête de tout cela, de tout mouvement et de tout changement. Et c'est Dieu, Dieu qui est immuable. Ce qui fait que lorsque nous disons que Dieu, dans son éternité, contemple le temps, il ne s'agit pas simplement d'une connaissance du temps, d'une connaissance des choses qui se déroule dans le temps, mais de l'action de Dieu sur les choses changeantes. Je vous en ai déjà un peu parlé, mais c'est très important cela. Dieu ne se contente pas de connaître l'avenir, il fait l'avenir. Parce qu'il fait durer les choses dans le temps, et il fait plus que de les faire durer, il les place dans le temps. Il place dans le temps le professeur qui change l'intelligence de ses élèves en leur communiquant la science. Il place dans le temps les saints qui influencent la société, les chefs qui la dirigent, les parents qui élèvent les enfants. Il place à leur tour les enfants qui deviennent parents pour communiquer ces perfections, perfections qui, elles, sont au-dessus, un peu au-dessus du temps, puisqu'elles sont transmises de père en fils et de fils en petit-fils. Tout cela, Dieu le place dans le temps, justement, pour que nous participions à ce qui dure. Il y a une certaine comparaison à faire entre le temps et l'espace. Dieu n'est pas comme un spectateur qui voit les hommes dans un avion, du haut du ciel, dans un avion. Il est beaucoup plus comme un chef militaire qui serait dans l'avion pour organiser la bataille. Ou on peut prendre un autre exemple. Dieu n'est pas comme l'auditeur d'une symphonie qui entend la succession, voire même qui connaîtrait la fin de la symphonie, il est beaucoup plus comme le chef d'orchestre qui donne l'impulsion à chacun des musiciens pour que la succession des notes produites par les musiciens fasse la symphonie, qui a un sens, qui a une unité. Et puis, on rejoint là le grand mystère dont je vous ai parlé au sermon précédent ou à celui d'avant sur la liberté des hommes. Dieu dispose la liberté des hommes dans le temps. Cette liberté sert toujours ses propres desseins à lui, Dieu, et pourtant il n'y a aucun déterminisme, c'est-à-dire que le fait que la liberté des hommes serve toujours les desseins de Dieu ne détruit en rien cette liberté. Deuxième partie du sermon, saint Thomas d'Aquin étudie et pose la question: Dieu seul est-il éternel? Et il répond: oui, évidemment, il n'y a que Dieu qui soit éternel, parce que il n'y a que Dieu dont on puisse dire qu'il possède une vie sans terme, sans fin. Nous avons vu que Dieu était infini, à la fois toute entière, à la fois et de façon parfaite. Cependant, dit-il, Dieu communique son éternité, on devrait dire Dieu fait participer à son éternité, et c'est cela qui est merveilleux. Bien sûr, si nous nous rendons compte que Dieu fait participer à sa perfection, rappelez-vous la quatrième voie d'épreuve de l'existence de Dieu, nous avons vu que toute perfection ici-bas était une participation à une perfection divine. Par conséquent, dire que Dieu nous fait participer à son éternité, c'est-à-dire qu'il nous communique un peu de son éternité, ça n'est qu'une répétition de ce que nous avons dit lorsque nous avons constaté que Dieu nous fait participer à ses perfections. Mais là, saint Thomas d'Aquin donne des précisions, une ébauche, quelques exemples seulement, et j'entrerai un peu plus dans le détail avec vous, mes bien chers frères, pour vous montrer non seulement que Dieu nous fait participer à sa perfection éternelle, mais quels sont les degrés de cette participation. Le degré le plus élevé, c'est celui des bienheureux, des bons anges, donc les saints bienheureux, les bons anges, qui participent à l'éternité de Dieu en le contemplant tel qu'il est. Et c'est pourquoi on dit que le ciel est éternel. La contemplation des bienheureux et des anges au ciel n'est pas une méditation sur Dieu, ni une réflexion sur Dieu, elle est vraiment une vision de Dieu. Et comme Dieu est absolument un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie en Dieu, ce que je viens de vous dire, la possession d'une vie qui est absolument simultanée, totale et parfaite, eh bien, ce seul regard sur Dieu est un regard unique, simple, qui nous fait voir Dieu tout entier. Bien sûr, nous ne le comprenons pas, c'est-à-dire que nous ne le saisissons pas tout entier, mais un seul regard, le regard des bienheureux, nous fait pénétrer dans Dieu tout entier. Cette éternité, elle est déjà commencée ici-bas, sur la terre, par la foi. C'est pourquoi Mgr Lefebvre parlait tellement de la foi, c'était son grand critère. Dans la crise actuelle, son grand critère était ce qui sert la foi, ce qui nous éloigne de la foi. Ce qui sert la foi, ce qui va dans le sens de la foi, tout cela est bon, même si le pape s'y oppose. Tout ce qui éloigne de la foi, tout cela est mauvais, même si c'est le pape qui le commande. Pourquoi peut-on dire que par la foi nous entrons dans l'éternité de Dieu? Parce que la foi est un début de contemplation qui se fait de façon un peu voilée, comme un peu derrière un rideau à moitié transparent. Mais plus nous avançons dans la foi, plus nous avançons dans la perception simple, simplifiée, toutes les choses trouvent une unité en Dieu. Ce que la foi affirme, ce sont des vérités éternelles. Je crois vous avoir parlé de la vérité à propos de Dieu, parce que c'est évidemment une question primordiale. Dieu est la vérité, il est la vérité immuable, et nous entrons dans la vérité de Dieu lorsque nous découvrons des vérités. En réalité, nous découvrons petit à petit la sagesse de Dieu, nous entrons dans la sagesse de Dieu, c'est pour ça que je préfère parler de sagesse de Dieu plutôt que de vérité. Nous entrons dans la sagesse de Dieu et nous avançons dans cette sagesse. C'est ça la découverte de la vérité. Un degré moindre que celui de la foi, mais un degré important, c'est celui que je viens de vous développer sur la sagesse de Dieu. D'une façon naturelle, l'intelligence humaine entre, sinon dans l'éternité de Dieu, du moins dans la connaissance de sa sagesse éternelle. Et c'est cela la connaissance de la vérité. C'est pourquoi il est nécessaire d'affirmer la vérité par-dessus toute chose, et il faut bien plus se préoccuper d'être vrai que d'être efficace. Ou bien, disons que la seule efficacité qui doit nous préoccuper, c'est de faire entrer les intelligences et finalement les âmes dans la pénétration de cette sagesse de Dieu, c'est-à-dire de la vérité. Vous vous rendez compte que nous sommes là à l'opposé, complètement à l'opposé du monde moderne qui ne cherche que l'efficacité et qui est prêt à brouiller toute vérité et même à changer les vérités, même dans l'Église. Les hiérarques aujourd'hui, c'est-à-dire les chefs de l'Église aujourd'hui, disent qu'il faut s'adapter au temps. Il est question maintenant de nouveau du mariage des prêtres, et vous allez voir que ça va être fait d'ici très peu de temps. Le pécheur, lui, et maintenant nous en arrivons aux degrés qui ne sont plus des participations à l'éternité de Dieu, mais qui au contraire sont des éloignements de l'éternité de Dieu. Le pécheur, lui, sort de la participation à l'éternité, car il met sa vie dans les choses passagères. Enfin, le monde qui change ne participe pas à l'éternité de Dieu, parce que justement il est dans le changement, cependant il dépend quand même de l'éternité de Dieu. Comme je vous l'ai expliqué, c'est l'éternité de Dieu qui crée toute chose. Et puis un degré encore en dessous, vous avez le monde révolté, qui veut nier l'éternité de Dieu, parce qu'il veut nier Dieu. Et il le fait par une recherche constante du changement, qu'il appelle le progrès, pour justifier son changement. Le changement est alors une fuite en avant pour échapper à Dieu. Eh bien, il y a deux sortes de progrès. Il y a le vrai progrès qui nous fait avancer vers l'éternité de Dieu, pénétrer dans l'éternité de Dieu, pas seulement avancer dans le temps, parce que notre mort devient de plus en plus proche, mais nous avançons dans l'éternité de Dieu parce que nous comprenons les choses de Dieu. Cela, c'est le vrai progrès. Quant aux autres progrès, les progrès matériels, ce ne sont pas des vrais progrès. Que l'homme sache aller sur la Lune, ce n'est pas un vrai progrès. Que l'homme découvre Mars, ce n'est pas un vrai progrès. Surtout quand, avec Mars, il prétend trouver des vérités qui vont prouver que Dieu n'existe pas. Plus il y a de trains, de voitures, de téléphones, et plus on se noie dans les choses qui passent. Bien, vous allez me dire, on ne peut pas se priver de ces choses-là. Oui, comme on ne peut pas se priver de la persécution quand c'est le moment de la persécution, mais on n'appelle pas persécution. Mais la persécution, on ne l'appelle pas bénédiction. On cherche les bénédictions de Dieu dans les persécutions, malgré les persécutions, mais on n'appelle pas la persécution une bénédiction. On cherche la sagesse de Dieu au milieu de toutes ces choses qui nous sont imposées par le monde moderne, et ça va aller de mal en pis avec la prétendue intelligence artificielle qui est tout sauf de l'intelligence, qui est de la mécanique, et n'appelons pas cela un progrès. Et puis l'enfer tout en bas, dont on dit qu'il est éternel, mais saint Thomas d'Aquin explique ce que c'est que l'éternité de l'enfer. C'est un changement sans fin. On dit qu'il est éternel parce qu'il n'a pas de fin. Mais c'est un changement sans fin. C'est-à-dire une insatisfaction sans fin, c'est un renouvellement de toutes les peines sans fin et sans espoir. Alors bien sûr, le pire dans l'enfer, c'est la peine du damné, c'est-à-dire d'être privé de l'éternité de Dieu, et c'est en ce sens-là déjà que l'enfer est éternel, parce que c'est une sorte de trou éternel, de manque éternel, ou de manque de l'éternité. Mais en plus, la durée de l'enfer rajoute à la peine, parce que justement, il multiplie la peine. Il est grand temps que je conclue. Je croyais encore que mon sermon durerait 15 minutes, et puis voilà. Comment entrer dès ici-bas dans l'éternité de Dieu? Il faut deux choses. Tout d'abord, pénétrer les vérités éternelles, les contempler et en vivre. Surtout en vivre, parce que l'éternité est une vie. Les martyrs ont toujours été la gloire de Dieu dans les persécutions, parce qu'ils témoignent justement de la permanence de Dieu. Ils entrent dans l'éternité de Dieu en dominant le monde révolté. Et c'est pour ça que les persécutions ont toujours été des heures de gloire dans l'Église. Et la deuxième chose à faire pour entrer dès ici-bas dans l'éternité de Dieu, c'est de s'éloigner des choses passagères et périssables. C'est la raison de la pauvreté, de l'ascèse, du carême. La raison de la pauvreté, pauvreté volontaire des moines, mais également du travailleur, qui ne cherche pas constamment à gagner plus. Je viens de lire la courte biographie d'un auteur qui pourtant n'est pas chrétien, et qui dit « Mes parents nous ont fait un grand cadeau, celui de la pauvreté, parce qu'ils nous ont expliqué que les choses périssables ne méritaient pas qu'on s'y arrête. » Et puis, il y a la pauvreté non volontaire, qui à ce moment-là est un cadeau de Dieu, par lequel il nous pousse à sortir des choses périssables pour entrer dans son éternité. Alors il y a ceux qui perdent les choses périssables et n'en profitent pas pour autant pour entrer dans l'éternité de Dieu, mais nous, puisque nous sommes avertis, nous savons que lorsque le bon Dieu nous prive des choses périssables, c'est pour nous faire entrer dans son éternité. C'est celle-là qu'il faut chercher. Il faut en dire autant de l'ascèse, du carême, et je terminerai là-dessus, c'est ce qui doit vous donner un grand enthousiasme, mes bien chers frères, dans ce carême qui va bientôt commencer. Un bon carême nous fait entrer dans l'éternité de Dieu, et cela éclatera avec évidence le jour de Pâques, et c'est comme cela qu'il faudra voir les fêtes pascales comme un début du ciel qui s'ouvre à nous et qui s'est ouvert à nous un peu plus encore chaque année. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.